Imaginons un instant l'organisation d'une immense fête, genre la grosse soirée de l'année.
Ouais, le genre d'événement où on a passé des semaines entières à tout préparer.
C'est ça, on a envoyé des invitations par la poste, on a distribué des flyers dans la rue, on a même fait passer le mot par des réseaux d'amis super complexes.
Et le jour J, la salle est pleine à craquer. L'ambiance est incroyable.
Le succès semble total. Mais il y a un énorme mais.
Ah bah, il y a toujours un mais dans ces cas-là.
Au moment d'interroger la moitié des invités présents sur la façon dont ils ont entendu parler de l'événement, ces personnes te regardent droit dans les yeux et répondent avec le plus grand des calmes « Oh, je suis simplement apparu par magie. »
C'est terrifiant pour un organisateur.
Bah oui, l'organisateur se retrouve face à un mur. C'est impossible de savoir s'il faut réimprimer des flyers pour la prochaine fois ou si c'est juste le bouche à oreille qui a fait tout le travail. L'investissement futur devient littéralement un jeu de devinettes.
Et cette situation absurde, c'est le cauchemar quotidien de l'analyse web.
Complètement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se lance dans une nouvelle plongée en profondeur et je suis ravie d'animer cette exploration. On va se baser sur un article technique très fourni, publié par l'agence web Hors-Piste.
Et je suis super prêt à t'accompagner là-dedans. Notre mission, c'est vraiment d'éclaircir ce mystère.
Décortiquons tout cela. Le point de départ, c'est de comprendre pourquoi un outil censé être d'une précision redoutable, genre Google Analytics 4, perd aussi facilement la trace des utilisateurs. Parce que ces données, elles s'évaporent dans un trou noir que l'industrie appelle le trafic direct.
Ouais, et ce phénomène, il touche particulièrement les canaux d'acquisition les plus stratégiques, c'est ça qui est dingue.
Genre lesquels?
Bah, les newsletters, les campagnes sur les réseaux sociaux, les QR codes imprimés qu'on scanne dans la rue, ou même ces fameux liens de type Linktree qu'on voit dans toutes les biographies Instagram, hein.
Donc plein de sources super différentes, en fait.
Exactement. Et tout ce volume de visiteurs, au lieu d'être méticuleusement étiqueté, bah, il finit jeté dans cette catégorie fourre-tout gigantesque qu'est le direct.
D'accord. Mais du coup, pour comprendre cette défaillance, l'article de Web Hors Piste explique qu'il faut plonger dans la mécanique même d'Internet.
C'est ça. Il faut regarder une donnée très spécifique, ce qu'on appelle le referrer en anglais ou le référent en français.
Le référent. Si je comprends bien, c'est ce que l'on pourrait comparer à une étiquette de bagage.
Ouais, une étiquette que le navigateur web transporte d'un aéroport à l'autre, en gros.
Voilà. Quand un utilisateur clique sur un lien, son navigateur dit au site d'arrivée « Hey, salut, je viens de la part de cette page précise ».
Et tant que l'on reste dans un environnement balisé, bah, cette étiquette, elle reste super bien accrochée.
Genre sur un ordinateur classique, Vici.
Par exemple, ouais. Si un internaute clique sur un résultat de recherche Google Search ou sur une annonce Google Ads, l'information circule sans aucune friction.
Parce que Google contrôle l'écosystème.
Exactement. L'attribution est irréprochable. Le site d'arrivée reçoit le visiteur avec tout son historique de provenance intact.
Mais le problème majeur, et c'est là que ça se corse, il survient au moment où l'utilisateur sort de ce que l'on appelle le web traditionnel.
C'est là que le bât blesse. Quand on entre dans des environnements clos, comme des applications mobiles...
Le signal est tout simplement coupé net entre l'application et le navigateur web, c'est ça?
C'est une véritable rupture de protocole. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas un bug de Google Analytics.
Attends, c'est pas un bug?
Non, pas du tout. C'est juste une absence d'information. Lorsqu'une personne navigue sur l'application TikTok ou Instagram ou clique sur un lien partagé dans une messagerie privée comme WhatsApp, ben elle n'est pas sur un navigateur web classique.
Ah oui, on est dans l'appli directement.
Voilà. Et lorsqu'elle clique, l'application ouvre souvent un petit navigateur interne ou redirige vers Safari ou Chrome. Et lors de ce transfert entre deux logiciels différents, pour des tas de raisons, le référent est supprimé.
Des raisons genre la confidentialité, la sécurité...
C'est ça. L'étiquette de bagage est carrément arrachée pendant le vol.
Et du coup, Google Analytics 4 voit arriver un visiteur sur le site, il regarde son étiquette et il ne trouve rien. Le vide intersidéral.
Le vide total. Et face à ça, la machine ne signale pas une erreur, elle applique juste une règle par défaut et classe la visite en direct.
Comme si l'utilisateur s'était réveillé ce matin et avait tapé l'adresse exacte du site dans sa barre de recherche de lui-même.
Alors qu'il vient en réalité de passer 10 minutes à regarder une vidéo promotionnelle sur TikTok. Ce silence technique, ça crée un biais analytique massif.
Le trafic direct n'est donc pas une preuve de notoriété soudaine. C'est surtout le cimetière des données perdues.
Ouais, l'expression est forte, mais c'est exactement ça.
Mais du coup, faisons l'avocat du diable un instant.
Je t'écoute.
Je me place du côté d'un chef d'entreprise qui gère une boutique en ligne. Si à la fin de la journée, le visiteur commande une paire de chaussures, pèse son panier et que le chiffre d'affaires augmente.
L'objectif principal est atteint, oui.
Exactement. Alors, pourquoi l'origine exacte du clic a-t-elle autant d'importance au fond ? L'argent ventre, pourquoi s'arracher les cheveux sur la provenance technique?
Parce qu'on ne peut pas développer ce qu'on ne comprend pas.
C'est-à-dire?
Si un succès reste un mystère total, il est impossible de le reproduire à grande échelle. Et c'est vraiment là que le problème technique se transforme en catastrophe stratégique.
L'article donne un super exemple là-dessus, d'ailleurs.
Ouais. Prenons ce scénario de gestion de ressources. Imaginons une marque qui alloue un budget mensuel de, disons, 5 000 euros pour son acquisition.
Ok, un budget classique.
Elle divise cette somme en deux. 2 500 euros dans des annonces sponsorisées sur Facebook et 2 500 euros pour la production d'une newsletter extrêmement qualitative envoyée à sa base de clients.
Et les ventes globales montent. Le directeur financier est ravi, tout va bien.
Jusqu'au jour où il faut optimiser les coûts. L'équipe marketing ouvre Google Analytics 4 pour faire le bilan.
Et là, c'est le drame.
Le tableau de bord indique que Facebook a généré 100 ventes. La newsletter, en revanche, affiche un score terrifiant. 0 vente.
Zéro. Rien du tout.
Rien. Et parallèlement, le trafic de la source directe a généré 300 ventes.
Donc la décision logique, basée uniquement sur ce que l'outil affiche, elle semble évidente. On coupe immédiatement le budget de la newsletter, puisqu'elle ne rapporte soi-disant rien, et on réinvestit tout cet argent sur Facebook.
Et ça, c'est l'erreur fatale. En réalité, c'était la newsletter qui générait la majorité de ces 300 ventes mystères.
Ah, parce que les gens ouvrent leur mail sur des applications comme Gmail, sur téléphone, ou Apple Mail, qui arrachent fameusement l'étiquette du référent.
Exactement. Toutes ces visites étaient masquées dans la catégorie directe à cause de cette absence de transmission. En coupant la newsletter, l'entreprise vient littéralement de détruire son canal d'acquisition le plus rentable en pensant bien faire.
C'est fou. Piloter une stratégie avec une vision aussi tronquée, ça revient à punir les succès invisibles et à récompenser des canaux parfois vraiment médiocres. On ampute le bras qui nourrit l'entreprise simplement parce qu'on portait les mauvaises lunettes analytiques.
C'est une excellente façon de le formuler.
Mais heureusement, l'article de Web Orpiste présente un antidote technique pour contrer cette fameuse cécité numérique. Au lieu de subir l'absence du référent, on va forcer le destin. Et c'est là qu'entrent en jeu les fameux paramètres UTM.
Ah, les UTM, le sauveur des analystes.
D'ailleurs, l'acronyme vient d'où exactement?
Ça vient de Urchin Tracking Module. Urchin, c'était l'entreprise d'analyse web que Google a rachetée au début des années 2000 pour créer l'ancêtre de Google Analytics.
Donc la technologie est super ancienne, en fait.
Oui, elle est vieille pour Internet, mais elle reste le standard absolu aujourd'hui.
Et le fonctionnement est franchement brillant. Au lieu de partager un lien propre et nu comme monsite.com/produit, on va ajouter toute une série de balises à la toute fin de l'adresse web.
Ce qui nous donne une adresse un peu à rallonge, tu sais.
Ouais, un truc du genre monsite.com/produit, point d'interrogation, UTM underscore source égale Facebook.
Voilà, c'est exactement ça. Plutôt que d'espérer que le navigateur transmette gentiment son étiquette de bagage dont on parlait tout à l'heure,
on grave le trajet directement sur le billet du passager.
C'est ça. Quand un utilisateur clique sur cette URL longue et complexe, le fait qu'il vienne d'une application fermée, d'un email crypté ou d'un réseau social, ça n'a plus aucune importance.
Parce que l'information est dans l'adresse elle-même.
Exactement. GA4 ne cherche même plus le référent système. Il lit directement ces petites balises présentes dans l'adresse que l'utilisateur vient de charger et il classe le trafic instantanément. La source d'acquisition est récupérée de force.
Mais attention, l'article insiste lourdement sur un point. Il faut vraiment comprendre la logique interne de ces balises pour ne pas aggraver le problème. Et j'avoue que la différence entre certains paramètres m'a toujours paru un peu floue.
C'est très commun comme confusion, hein.
Si je reprends la base, UTM source, ça désigne l'outil spécifique, l'entité qui envoie le lien. Ça peut être MailChimp, LinkedIn, TikTok. C'est le TI.
Le qui ou le où. C'est l'origine factuelle du clic.
Ok. Mais c'est le niveau suivant, le fameux UTM médium, qui pose souvent problème aux équipes. Si MailChimp est ma source, quel est le médium facile? C'est le fait que ce soit un email?
Le médium, il faut le voir comme le type de canal marketing, la nature même de l'effort d'acquisition. C'est le comment.
D'accord, le comment.
Donc dans le cas de MailChimp, le médium serait effectivement email. Mais si la source est Facebook, le médium pourrait être social pour une publication gratuite sur une page.
Et si on paye pour une pub Facebook?
Là, le médium sera CPC. Pour coût par clic. C'est ce paramètre médium spécifique qui permet vraiment à Google Analytics de ranger proprement le trafic dans ses grands dossiers de rapports de performance. Sans un bon médium, Google est perdu.
Donc, on a la source avec le qui, on a le canal avec le médium, le comment. Et le troisième pilier, c'est UTM Campaign, le pourquoi.
Tout à fait.
Ça sert à nommer l'opération promotionnelle en cours, genre lancement collection hiver. Ça permet d'isoler la performance d'une campagne super spécifique à travers toutes les sources et tous les médiums utilisés.
Et l'article mentionne aussi des balises optionnelles très puissantes.
Ah oui, il y en a d'autres.
Ouais, par exemple UTM Content. Ça permet de distinguer différents éléments sur une même page.
Comment ça ?
Imagine, si une newsletter contient un gros bouton rouge en haut et un simple lien hypertexte bleu tout en bas.
Les deux renvoient vers la même page produit.
Exactement. Eh bien, on peut utiliser UTM Content pour savoir lequel des deux génère le plus de clics et de ventes. Ça permet de réaliser un test comparatif très précis.
Super intelligent.
Et puis, il y a le UTM Term qui est réservé, lui, au suivi des mots-clés spécifiques achetés dans des régies publicitaires.
D'accord. Mais toute cette machinerie, ça soulève un paradoxe super intéressant. On passe notre temps à ajouter tout ce code de pistage au bout des URL. Ça rallonge considérablement l'adresse.
C'est sûr que c'est pas très esthétique.
Et ça nous amène à une question de visibilité technique. Est-ce que ce GPS virtuel détruit le référencement naturel, le SEO ? C'est une croyance très tenace qui est abordée dans la FAQ des sources.
L'idée est que les moteurs de recherche pénaliseraient ces adresses à rallonge.
Voilà. Qu'ils se diraient « Oula, cette adresse est bizarre, je la déclasse ».
Ce mythe doit disparaître de toute urgence. Les sources sont catégoriques là-dessus. L'utilisation des UTM n'a strictement aucun impact négatif sur le SEO. Zéro.
Ah, rassurant. Mais pourquoi ?
Parce que les robots d'indexation de Google, ils sont intelligents. Ils savent parfaitement identifier le point d'interrogation dans une URL, comprendre que tout ce qui suit n'est que de la donnée d'analyse pour les humains et l'ignorer royalement. Ils n'indexent que la page principale.
Donc la peur du déclassement n'est absolument pas une excuse valable pour refuser le tracking.
Aucune excuse.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'outil technique est parfait, les robots le comprennent, la solution semble infaillible.
Sur le papier, oui.
Pourtant, l'article démontre que toute cette belle architecture si robuste peut s'effondrer comme un château de cartes à cause d'une simple pression sur la touche majuscule d'un clavier.
Ah, le fameux facteur humain. Il entre toujours en scène à un moment donné.
Raconte-nous ça.
L'outil analytique est puissant, ok ? Mais sa logique de traitement est d'une rigidité implacable. Imaginons trois collaborateurs qui publient des liens pour une même campagne sur Facebook.
Ok, l'équipe marketing classique.
Le premier écrit le paramètre source en écrivant « Facebook » avec un F majuscule. Le deuxième, lui, écrit « Facebook » tout en minuscule.
Et le troisième ?
Le troisième, qui est peut-être un peu pressé avant la pause déj, écrit simplement « FB ».
Bah, pour un cerveau humain, ces trois mots désignent clairement la même entreprise. On comprend tous de quoi on parle.
Bien sûr, mais pour la base de données de Google Analytics, ce sont trois chaînes de caractères informatiques totalement distinctes. Elles n'ont rien à voir les unes avec les autres.
Oh, la catastrophe.
Le logiciel va donc créer trois lignes différentes dans ses rapports. La donnée est instantanément fragmentée. L'analyste qui voudra connaître la performance globale de la plateforme à la fin du mois devra exporter les données, repérer les fautes de frappe, additionner les lignes manuellement sur Excel.
Un travail de nettoyage titanesque, quoi. Le chaos absolu de la nomenclature.
Et l'article souligne d'ailleurs que cette erreur est encore plus dévastatrice si elle touche le paramètre médium dont on parlait tout à l'heure.
Pourquoi le médium plus que la source UC ?
Parce que Google possède des règles internes, codées en dur dans son système, pour catégoriser le trafic dans ses canaux par défaut. Le système s'attend à lire des mots précis en anglais la plupart du temps, comme « social », email ou organique.
Et si on dévide ça ?
Ou glisse une faute de frappe, Google ne saura plus du tout dans quel rapport macroéconomique ranger les visites. L'attribution devient totalement illisible.
Donc, ajouter des balises UTM au but d'un lien, ça ne suffit pas du tout en fait. La technologie nécessite une rigueur d'exécution quasi militaire au quotidien.
Absolument. Les bonnes pratiques exigent de mettre en place des conventions de nommage hyper strictes, partagées par toutes les personnes impliquées dans la stratégie numérique de l'entreprise.
Pas que le marketing du coup.
Non. Le service client, les relations presse, les agences externes, l'ensemble des départements doit adopter la même grammaire.
Et il y a une règle d'or universelle qui ressort des sources pour ça ?
Laquelle ?
Il faut bannir intégralement les majuscules, les espaces et les accents.
Exact.
Tout s'écrit en minuscules et tout est lié par des tirets bas ou des tirets normaux.
C'est un défi organisationnel majeur pour les boîtes, ça.
Grave. On sait très bien qu'un fichier PDF ou un doc partagé détaillant toutes ces belles règles de nomenclature finira toujours par être ignoré lors d'un lancement de campagne géré dans l'urgence à 18h le vendredi.
Ah, ça, c'est du vécu.
Du coup, pour sécuriser ce processus, beaucoup se tournent vers les générateurs d'URL UTM, genre l'outil gratuit mis à disposition par Google lui-même. C'est bien ça, non ?
Oui et non. L'article est assez critique là-dessus. C'est un outil de base qui est utile pour un usage très ponctuel.
Comment il fonctionne ?
C'est un simple formulaire en ligne. Un utilisateur remplit des champs de texte vides et l'interface assemble le lien final proprement.
Ça a l'air pratique pourtant.
Sauf que l'article de Web Hors Piste met en évidence les limites criantes de cette solution dans un contexte de travail d'équipe. Cet outil officiel manque cruellement d'intelligence contextuelle.
Il agit comme un simple assembleur mécanique, c'est ça ?
Voilà, il n'a aucune mémoire des conventions de l'entreprise. Si quelqu'un tape une majuscule par erreur, l'outil génère le lien sans envoyer la moindre alerte, il s'en fiche.
Il ne force aucune standardisation ?
Aucune. C'est la raison pour laquelle les créateurs de l'article, confrontés à la fragmentation de leurs propres données chez leurs clients, ont développé leur propre générateur d'UTM avancé.
Et quelle est la différence majeure avec l'outil de Google ?
L'objectif d'un tel outil interne, ce n'est pas de pallier un manque de compréhension théorique des professionnels. C'est vraiment d'imposer un cadre rigide.
D'accord, mais comment ils font ça concrètement ?
En remplaçant les champs de texte libres par des menus déroulants pré-approuvés. On élimine physiquement la possibilité de la faute de frappe.
Ah, malin ! On ne peut plus écrire Facebook avec une majuscule, puisque le menu ne propose que la version validée en minuscule. On neutralise l'erreur humaine à la source.
Exactement. Si on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est l'unique manière de garantir des données fiables à grande échelle. Le succès de l'analyse, il ne se joue pas au moment de lire le tableau de bord de GA4 à la fin du mois.
Il se joue à la seconde exacte où le lien est créé par le collaborateur et publié sur Internet.
Tout se joue à la création.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au terme de cette analyse ? Cette exploration des profondeurs de l'attribution montre que le suivi du trafic, c'est pas juste une préoccupation périphérique réservée aux experts en base de données dans une cave.
Non, c'est vraiment l'infrastructure même de la prise de décision.
Les paramètres UTM, malgré leur apparence de code un peu barbare, on va se l'avouer, sont de simples balises d'une puissance fondamentale pour percer le brouillard imposé par les applications modernes.
Il restaure la chaîne de cause à effet entre l'action d'une marque et la réaction d'un utilisateur.
Et c'est pour cette raison que quiconque évoluant dans l'écosystème numérique devrait vraiment s'en soucier. Je veux dire, toute personne qui rédige une newsletter, déploie un budget publicitaire ou anime une communauté mérite de mesurer les fruits de son travail de manière chirurgicale.
Plutôt que de naviguer à vue en espérant que la catégorie directe ne cache pas un effondrement complet de ses canaux d'acquisition.
Voilà. Les UTM rallument la lumière sur le chemin des visiteurs. L'objectif étant que lors de la fameuse prochaine grande fête de notre métaphore, qu'elle soit virtuelle ou réelle, il soit enfin possible de savoir très précisément qui a motivé les invités à franchir la porte.
Fini les apparitions par magie.
L'époque de l'apparition par magie est définitivement révolue, ouais. Cependant, cette plongée technique soulève une réflexion vertigineuse pour clore le sujet.
Vas-y, je t'écoute.
Nous venons de démontrer que toute l'intelligence analytique du web repose désormais sur un fil extrêmement fragile. L'existence et la transmission de ces petits paramètres attachés au bout des URL.
C'est vrai, tout le système marketing mondial s'appuie sur cette simple convention.
Mais que se passerait-il si les systèmes d'exploitation des téléphones ou les navigateurs dominants décidaient un jour, au nom d'une confidentialité totale de l'utilisateur, de tronquer automatiquement tous les paramètres de suivi d'un lien avant même qu'il ne se charge sur le navigateur.
Ouf, le cauchemar absolu.
Le marketing numérique serait-il renvoyé direct à l'âge de pierre du trafic invisible, noyé pour de bon dans l'océan du direct ?
C'est une perspective technique qui commence déjà à prendre forme dans l'ombre avec certaines mises à jour récentes d'ailleurs.
Et c'est certainement une question à méditer très sérieusement pour l'avenir de l'analyse web. Sur ce, merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration et à la prochaine.